Bonjour à tous, bienvenue, merci d'être avec nous pour ce nouveau magazine de la moto, les dimanches de 11h à 12h30, c'est sur Campus Lille 106,6 ou www.campuslille.com. Au sommaire de cette émission, honneur aux femmes motardes, des femmes qui prennent la parole pour affirmer leur vision de la moto, avec Patricia, notre motarde en or, bonjour.
Bonjour à tous, nous allons parler effectivement des femmes qui agissent, des femmes qui parlent de ce qu'elles font, et leurs paroles témoignent du fruit de leur réflexion, de leur cheminement sur leur route de motarde et de femmes. Des femmes aussi qui se veulent responsables pour une humanité plus riche et plus égales. Leur engagement, il est à la mesure de chacune, en suivant les opportunités de vie, en les recherchant, en les provoquant. Et aujourd'hui, nous vous proposons de rencontrer trois personnes qui nous semblent illustrer ce que peut être l'engagement féminin dans la moto.
No one knows what it's like be the bad man, to be the sad man, behind blue eyes. No one knows what it's like to be hated, to be faded, to telling only lies. But my dream, it's never free. No one knows what it's like to feel these feelings like I do, and I blame you. No one bites back as hard.
Bonjour Mag.
Bonjour tout le monde.
Et bonjour.
Patricia et toute l'équipe. Belle journée à tous. Oui, c'est génial d'être en ligne avec vous. Je reviens d'un road trip de presque une année, 40 000 km au guidon de mon sidecar rural, où j'ai traversé tout le Canada, enfin toutes les provinces, oui, j'ai traversé tout le Canada. J'ai fait 22 000 km sur le Canada, donc j'ai traversé toutes les provinces, sauf le Nunavut, parce qu'il n'y a pas de route, dans les températures entre le plus froid, moins 50, et le plus chaud au Canada, je ne sais plus, 13 degrés peut-être. Voilà, peut-être que tu veux... Oui, on peut peut-être discuter deux minutes de ce road trip Canada.
Oui, écoute, il est tellement intéressant qu'on va, on va y accorder plus de deux minutes. Donc, 40 000 km pour traverser combien de pays, Mag ?
Alors, 9, je crois. Oui, 9 pays. Donc, en fait, j'ai envoyé mon sidecar de Paris à Montréal. Pourquoi cette destination ? Pourquoi cette direction-là ? Ben, parce que, à l'époque, partir à l'est, c'était un petit peu plus compliqué. Donc, je me suis dit, ben, je vais partir à l'ouest. Et je connaissais pas le Canada. Et donc, j'avais l'intention d'y passer le maximum de temps. J'ai passé 2 mois et demi au Canada, 3 mois presque, en fait, en fonction des visas. Et ensuite, j'ai descendu les États-Unis assez vite, assez vite, parce que bon, je connaissais déjà d'avant. Et après, bah, alors, je me suis beaucoup amusée au Mexique, Baja Californie principalement. Puis après, bon, beaucoup de provinces mexicaines. Et ensuite Belize, Guatemala, jusqu'au Costa Rica. Donc en passant par le Honduras, El Salvador, Nicaragua.
Donc moi, ce qui m'a étonné, c'est la période. Alors, est-ce que tu l'as choisi ou est-ce que c'était, il n'y avait pas d'autre possibilité de partir à un autre moment? Mais tu es parti quand il commençait à faire bien froid au Canada.
Alors, je suis partie, c'était l'automne, parce que tout le monde parle de l'automne au Canada, que c'est magique. Donc, en effet, donc ce qui m'a permis de voir toutes ces couleurs, que voilà, ça illumine la route, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et puis, du coup, ça m'a permis de faire Terre-Neuve et Labrador, qui sont les îles quand même, qui sont bien exposées en hiver, où c'est très venteux. Donc là, c'était très sympathique. Et après, oui, j'ai décidé, je voulais faire... mon rêve, c'était de faire l'Alaska Highway, qui fait 2000 km et qui traverse le Canada et qui va jusqu'en Alaska. Et de voir aussi ces camions-là, ces camions-trains qui roulent... je ne sais pas si vous avez déjà vu les camionneurs de l'extrême qui roulent sur ces lacs gelés pour pouvoir amener toute la nourriture, surtout l'essence, etc., au territoire du Nord. Et aussi parce que j'ai extrêmement peur du grizzly. Me demandez pas pourquoi, j'en ai jamais vu de ma vie.
Ah oui, il y a des ours, hein.
Mais j'ai super peur du grizzly. En fait, je crois qu'on m'a fait peur, comme quoi ça courait plus vite que mon sidecar, etc. Et donc, je ne voulais pas rencontrer de grizzly. Donc, le grizzly dort en hiver. Donc, je me suis dit, le pied, c'est de traverser le Canada en hiver. Voilà.
Donc, si tu peux préciser justement comment ces routes sont préparées pour permettre aux véhicules de circuler.
Alors, justement, elles ne sont pas préparées parce qu'ils ont tellement... les plus gros parcours que j'ai pu faire, sans relais, sans café, sans toilette, que des bisons, des rennes, des caribous, des loups sur la route. Il n'y a qu'une route, hein. Et en fait, c'est pas du tout déneigé, ils déneigent pas. Ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent une sorte de calcium, parce que ça gèle, hein, le sel gèle à partir de, je veux pas dire de bêtises, mais je crois à partir de moins 12, le sel gèle. Donc en fait, ils mettent du calcium et puis des graviers. Mais en fait, c'est les camions qui font la route, quoi. Donc tu roules sur la glace.
À force de passage, d'accord.
Ouais, tu roules sur la glace. Ouais.
Et donc, le choix de ton side, dis-nous le choix de ton side, justement.
Alors, donc j'étais motard de roues, hein, et puis il y a 5 ans, j'ai découvert le sidecar Ural, donc qui est russe. Il m'a énormément plu. Ouais, alors c'est une autre sensation, hein. C'est ni une moto ni une voiture à piloter. C'est surprenant.
Alors, c'est physique un Ural, hein. On va dire que c'est une moto d'homme, quoi.
Alors, moi j'ai des bras de crevette, hein. Je suis pas une camionneuse. Non, mais alors c'est technique. Je dirais pas que c'est physique. Je dirais que c'est technique. Et une fois que tu l'as apprivoisé, après ça prend plus ou moins de temps à l'apprivoiser. De nouveau, hein, le sidecar, il t'emmène où il veut. Mais quand tu as commencé à l'apprivoiser, en fait, non, ça se guide absolument très bien. Hein. Bon, il aime bien les virages à droite, mais quand tu le sais, c'est tout bon. Et pourquoi ? Parce que, alors, Déjà, il est deux roues motrices. Et ça, c'est plus qu'essentiel. Parce que quand tu roules sur la glace, après, j'ai roulé dans le sable, j'ai roulé dans la boue, j'ai roulé... Et puis, avec un sidecar, tu roules... tu prends pas les autoroutes, hein, parce que là, c'est les camions qui te poussent. Donc, tu prends que les petites routes. Et je faisais de moyenne, on va dire, sur tout mon parcours, ma moyenne, elle a été de 40 km/h, hein. Quand même, parce que tu traverses des villages, parce que voilà, les routes parfois sont plus ou moins praticables. Et donc oui, c'est pas pour rouler vite, mais voilà, deux roues motrices, ça c'était plus qu'essentiel, et une marche arrière, parce que alors je veux pas dire que je suis une fille, parce que c'est sûr que les garçons aussi, les mecs, ça leur arrive, mais moi quand je vois un truc, je me gare pour voir, pour voir un peu d'un peu plus près. Puis des fois t'es pas garé comme il faut. Et quand t'as un sidecar qui fait chargé, je faisais 580 kilos. Donc, s'il faut le pousser à la main, je pouvais pas. Donc, la marche arrière, c'était pur bonheur. Et puis, c'est robuste, hein, il n'y a rien à faire. C'est de l'acier, il n'y a pas de fibre de verre. Hein. C'est de l'acier russe. Et voilà, ça résiste à tout.
Donc, ce voyage, tu l'as préparé parce qu'il y a des préparations obligatoires, que ce soit par rapport à la machine, par rapport aussi aux contraintes administratives. Mais tu l'as préparé aussi au niveau de la route, de l'itinéraire, du logement, ou tu es parti à l'aventure ?
Alors, oui, en effet. Donc, la moto, je l'ai un petit peu préparée road trip, mais pas grand-chose, en fait. J'ai surtout pris aussi des pièces, des consommables. Mais comme on dit, hein, tu prends 50% des pièces et puis c'est les autres 50% qui cassent. Bon, sur tout mon road trip, j'ai juste changé les consommables. J'ai jamais eu de soucis. Donc, merci. Enfin, c'est cool. Et préparer, oui. Donc, j'avais l'idée de la direction. Je savais que je voulais faire un maximum des provinces canadiennes. Maintenant, par où passer ? Non, j'avais pas d'itinéraire, en fait. J'ai eu énormément de chance. Mais en fait, c'est pas de la chance. C'est en fait, j'ai rencontré des gens absolument fabuleux. Et en fait, c'est ces personnes-là qui te disent « Ah, mais tiens, pourquoi tu prends pas la 389 ?»« Prends cette route-là, elle est juste extraordinaire. » Et du coup, en fait, j'allais en fonction de ce qu'on me disait pour visiter. Alors, toujours, bien sûr, dans ma direction, on allait sur l'Alaska Highway. Mais j'ai fait beaucoup d'Annecy, en fait, sur mon parcours. Parce que les locaux, en fait, sont les mieux renseignés. Puis surtout là-bas, enfin, hein, il y a des grands... Moi, j'avais jamais roulé dans les grands espaces. Hein. Quand tu fais la première fois que j'ai fait 600 km où il n'y a rien, ça surprend quand même. Mais donc voilà, après j'ai été énormément invitée à dormir, surtout chez les Canadiens, où des gens en fait m'arrêtaient au bord de la route en me disant « tu sais où dormir ce soir ?» Alors non, en général je regardais à partir de midi 2h, 14h, savoir où j'allais m'arrêter, sauf quand j'avais des grandes étapes. Et les gens m'invitaient à dormir chez eux, voilà. Et après, j'ai découvert, tout au long de mon parcours, j'ai découvert, en fait, sur Facebook, parce que j'ai pas trop l'âge d'être TikTok, Instagram, tout ça, moi. Donc, Facebook, c'est plus, on va dire, ma génération. Et ça s'appelle Bunk Biker, B-U-N-K-A, et puis B-I-K-E-R. En fait, c'est un groupe de motards mondial. Où en fait, les motards t'offrent soit un bout de jardin où tu peux planter ta tente, soit ils t'offrent une chambre avec une douche, voire même un repas, ou même aussi un garage où tu peux faire de la mécanique pour ta moto. En fait, voilà. Et tu les préviens la veille ou l'avant-veille en disant « Ah, si je passe chez vous, est-ce que vous pouvez m'accueillir ?» C'est gratuit, on t'amène un pack de bière pour dire de passer la soirée sympa. Et ça te permet de faire tourner une machine à laver aussi. et voilà, et en fait j'ai beaucoup vécu comme ça. Oh black belt, bam a lamb, whoa black belt, bam a lamb, black belt at a shop. Bam-a-lam, the poor thing went wild. Bam-a-lam, don't eat none of mine. Bam-a-lam, the poor thing went blind. Bam-a-lam, whoa, black belly. Bam-a-lam, whoa, black belly. Bam-a-lam. Bam-a-lam.
Patricia, au téléphone, nous avons Anne-France Hauteville.
Oui, nous avons cette grande chance qu'Anne-France nous donne un peu de son temps. Bonjour Anne-France.
Comment ça va?
On est très très heureux de vous accueillir à l'antenne.
C'est adorable de m'ouvrir votre porte.
Donc, on disait que l'actualité moto féminine, on s'était choisi une marraine d'exception parce qu'on voulait justement donner sous le signe de l'aventure, parce que l'aventure, ça peut être suivant les personnes, ne serait-ce que déjà passer son permis, découvrir la moto, mais aussi l'aventure, le voyage tel que vous avez pu l'innover, je dirais, hein, dans les années 70.
Il y avait plein de gens qui voyageaient, plein de gens qui voyageaient, mais tout le monde n'écrivait pas. Il y a des femmes qui ont fait des choses avant moi. Il y avait par exemple, je crois dans les années 60, une Belge qui est allée à moto jusqu'en Iran, oui. Il me semble, peut-être même l'Afghanistan, mais elle n'a jamais rien écrit. Mm-hmm. Donc on ne savait pas.
Tout à fait. Parfois, on a pu dans les émissions précédentes, il y a quelques années, évoquer comme ça justement ces pionnières qui ont, ça démarrait, c'est vrai, très tôt, et sans doute qu'il y a eu des personnes dont on n'a jamais raconté l'histoire. Oui. Mais là, effectivement, il y a eu ces livres que vous avez écrits, donc livres qui actuellement sont pas forcément disponibles, sauf un qui a été réédité.
Et, oui, c'est le Tour du monde, 73, qui s'appelle Et j'ai suivi le vent.
Voilà, c'est dans la petite bibliothèque Payot pour un tout petit prix. Vous allez découvrir vraiment, je dirais, ce voyage que vous avez donc. C'était le deuxième que vous deuxième grand voyage, hein, premier où vous étiez seule.
Oui, le premier voyage, c'était un rallye raid qui allait de Paris jusqu'à Isparan. Il y avait 105 motos au départ. J'étais la seule femme qui pilotait. J'avais une moto énorme, une 750 Guidly. Et c'était Paris-Isparan. Donc, j'arrivais à Isparan, après plein d'histoires. Et puis, il y en a 11 qui ont dit, on va en Afghanistan. Alors, ben, j'y suis allée. Puis, 5 ont dit, on va au Pakistan. Alors, j'y suis allée. Et puis finalement, ça s'est arrêté là, retour en France. Et on a raconté que j'avais voyagé dans un camion, etc. Vous savez, dès que vous faites quelque chose d'inhabituel pour une fille, tout le monde vous tombe dessus. Enfin, tout le monde, non. Donc, j'ai fait le tour du monde, comme ça.
Voilà, une grosse colère. Et puis, voilà, le défi et le défi après à assumer.
Oui, assumer. Vous savez, une fois que vous êtes parti, c'est génial. C'est fabuleux de se promener autour du monde. C'est du bonheur.
Moi, je recommande de manière très sincère la lecture de votre livre, parce que au départ, j'y suis allée comme parfois je peux le faire, un petit peu à reculons. J'avais un petit peu de mal à accrocher au style. Et après, j'ai été complètement conquise et j'ai adoré. Et je dirais que sur bien des plans, ça n'a pas vieilli, parce que vous témoignez d'une expérience humaine.
Ça, je suis toujours partie pour chercher des paysages d'avant les humains. C'est vrai que j'en ai trouvé. Je suis partie pour essayer d'avoir des sensations de la Terre avant que les humains y soient. Et chaque fois, je suis revenue avec des histoires d'humains. Et chaque fois, c'était extraordinaire de voir des gens totalement différents, qui vivaient dans une autre réalité que la mienne. Et on arrivait pourtant à échanger de la générosité, de la gentillesse, du rire, de l'attention, de l'étonnement, tout ce que, au fond, échangent les enfants, je crois. Voilà, quand on voyage dans un pays tellement différent que peut l'être, par exemple, l'Afghanistan de la France, il faut être en état d'enfance pour percevoir et pour échanger.
Oui, c'est tout à fait perceptible dans ce que vous écrivez. Je dirais que la rencontre avec la nature, quand sur certaines pages, hein, quand dans les journées passées au Canada.
Ah oui, ça c'est
là, on sent qu'il y a eu quelque chose de totalement unique de cette rencontre avec une terre des origines.
Ah ben, il y a eu un moment d'éternité. Vous savez, quelquefois on a des moments d'éternité, c'est-à-dire que il y a plus de temps, il y a plus de distance. Vous êtes dans un état de perfection absolue, et ça se passait au nord du Canada, dans une source d'eau chaude. En pleine forêt, ça s'appelle Lyod River Hot Spring, et c'est une source d'eau chaude au milieu de nulle part dans la forêt. Je m'y suis retrouvée vers 10h30, 11h du soir, toute seule, au moment du soleil de minuit. Donc la lumière est grise à ce moment-là. Je suis rentrée dans cette source d'eau chaude, lentement parce que c'est vraiment très très chaud. Ça faisait blouk blouk blouk. Tout autour de l'étang, il y avait des arbres, absolument comme des cils autour d'un œil. Je me suis mise sur le dos. Il y avait l'odeur de la forêt, il y avait cette solitude, il y avait cette eau chaude, il y avait ce bonheur de flotter. Et brusquement, des aurores boréales se sont mises à dégouliner dans le ciel. J'y suis encore, tellement ça a été un moment magique.
Et vous restituez bien aussi, mais sur un ton très très léger, les difficultés qui ont pu être les vôtres. Parce que si je dis que le livre reste sur bien des plans complètement d'actualité, par contre, quand vous avez évoqué l'état, par exemple, des routes au Canada, la difficulté que vous avez pu avoir, là, on va rentrer dans des choses un petit peu plus techniques. Hein, ça a aussi conditionné le choix de la moto.
Non, le choix de la moto est venu d'un truc très simple, c'est qu'au voyage d'avant, donc j'avais cette énorme budget, et au retour, j'avais bien compris que j'étais faite pour voyager seule et pas un groupe, donc j'étais partie seule sur une piste au nord de l'Iran, entre Neshabur et Sharoud. C'est de la tôle ondulée, il faut la prendre à 70-80 pour voltiger au-dessus des ondulations, sauf qu'il y a de temps à autre des plaques de sable, et dans ces cas-là, il faut accélérer très fort pour lever la roue avant, éviter qu'elle ne soit avalée par le sable, qu'elle ne se replie, etc. Je n'ai pas assez accéléré, je me suis cassé la gueule magnifiquement et incapable de relever la moto trop lourde. Alors je me suis assise dessus, j'ai attendu, puis au bout de 20 minutes est arrivé un camion, je l'ai arrêté, il y a 3 costauds qui sont descendus avec des turbans, je leur ai expliqué que la moto était par terre, qu'il fallait la relever, etc. Ils ont vu que j'étais une femme, ils ont poussé un hurlement, ils ont sauté dans le camion, ils sont partis. Voilà. Donc, j'ai compris un truc, en dehors de voyager seule, c'est partir toujours avec une moto qu'on peut relever toute seule. Voilà. Donc, je suis partie avec un truc minuscule, une petite Kawasaki, il y avait écrit 125 dessus, mais ça voulait dire un cylindre de temps et 5 vitesses, c'était un 100 cm3. Voilà.
Et comme j'évoquais tout à l'heure, je dirais sur un certain nombre de pages, à moins que j'ai mal lu, vous donnez l'impression de la fille un petit peu détachée des réalités, je dirais même si en connaissant certaines bases, un peu détachée des réalités mécaniques. Et puis on tombe sur la page 242, même si vous évoquez lors de votre passage au Japon le démontage et remontage de la Kawa. Page 242, la moto s'arrête, mais qu'est-ce qu'elle a? Et on a un super diagnostic mécanique.
Donc là, j'ai dû avoir un coup de bol.
Oui, mais moi, j'étais impressionnée. Hein.
Non, mais bon, j'adore impressionner à bon compte, mais je pars du principe que si je touche à rien, je risque pas de déglinguer les choses, et que si vraiment il y a un gros problème, faut jamais réparer au bord de la route, parce qu'on met du sable dans le moteur, n'importe quoi, donc on pleurniche, et il y a toujours un mécanicien anglais qui sort du fossé en disant « May I help you, miss ?» ou alors on met la moto sur un camion, ou n'importe quoi, mais faut pas bidouiller, de toute façon je suis pas bidouilleuse, voilà.
Mais la moto, il y a aussi des pages où... Elle permet de découvrir justement le monde sur un mode qui vous a aussi apporté beaucoup de bonheur.
Ah bah, vous savez, c'est déjà physiquement, c'est magique. Moi, je fais de la moto comme on fait du bateau. C'est-à-dire que je vais pas vite. J'aime beaucoup me promener sans penser que je suis réellement en train de piloter quelque chose. J'ai peur quand ça passe dans le virage. Je fais de la moto tranquillement. Mais vous avez toutes les odeurs, vous avez toutes les sensations, vous avez le corps entier est vivant. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est vraiment du bonheur. Et puis, vous mettez une fille toute seule sur une moto qui arrive n'importe où, mais ça devient la télé en couleur. tout le monde se dit, mais c'est quoi ce machin? Et on vient voir. Et à partir du moment où on vient voir, bah, se met en place ce qui est magique parmi les humains, c'est la question, tu es qui, toi? Et c'est ça ce qui se passe. Et même quand, bon, maintenant j'ai eu un gros accident de voiture, je peux plus faire de moto, mais il y a encore 5 ans, quand à mes 68 ans, oui c'est ça, 68 ans bien sonné, cheveux blancs et tout, je me baladais sur ma moto en France, bah, j'avais la même chose qu'en Afghanistan. C'est-à-dire les gens venaient me voir en disant, mais t'es qui, toi? C'est quoi ce machin sur une moto? Une vieille? C'était génial.
Oui, c'est dangereux la voiture, hein. faut pas en faire.
Oh, bah, surtout quand ça vous crie un stop et que quand ça vous éclate. Hein. Mais que pour la première fois de ma vie, j'ai eu des os cassés. Alors que je suis tombée de toutes les façons de ma moto, j'ai eu des bleus, des hématomes, jamais rien de cassé. Je monte dans une voiture de bourgeois, je me fais exploser et par voilà. Un cornéo et paf.
Mais il y aurait tant à dire, Anne-France, tant à transmettre de votre expérience. Je suis sûre que tous les motards là, qui nous écoutent vont se précipiter sur votre livre. En tous les cas, c'est ce que je souhaite. Et puis, puisse vous découvrir. Parce que moi, ça a été vraiment une super lecture, un excellent moment que j'ai passé à vos côtés et je vous en remercie.
Bah, c'est moi qui vous remercie, c'est adorable de dire ça.
Et puis, si vous le voulez bien, Anne-France, je vais le faire dès maintenant à l'antenne. Ouais. Je serais ravie qu'on puisse prendre du temps pour faire une émission spéciale et justement que vous puissiez nous raconter, parce qu'il y a plein d'autres choses.
Bah, vous savez ce que je fais de plus en plus? Eh bien, Mimi Rider, par exemple, m'a invité très gentiment dans son magasin. J'ai déboulé avec des diapos d'autrefois que j'ai numérisées. J'ai raconté le voyage. Et bah, c'est des choses que je fais. Voilà. Donc, si un magasin de moto ou un club de motards qui a envie de me voir, je viens à Lille.
C'est super.
Et on se voit.
Bah écoutez, on vous contacte très vite. Il y a plein de, on a plein de projets. Alors, on pourra en discuter. Merci d'avance.
Très plaisir.
Merci d'avance, Anne-France, et à très très bientôt.
Eh ben, j'espère. Merci.
Un excellent dimanche.
À vous aussi. Au revoir.
Merci. Au revoir.
Bonjour, je m'appelle Zélie. Vous écoutez les programmes de Radio Campus sur le 106,6 ou sur le www.campuslille.com et sur les DAB+. Bonne écoute.
Magazine de la moto aujourd'hui, honneur aux femmes motardes, des femmes qui prennent la parole, mais aussi des femmes qui agissent et qui prennent aussi la route.
À l'instar de Christine, Christine, un an de permis, puisque tu disais que tu étais jeune motarde, on va dire.
Voilà, alors jeune motarde, que, bon, j'ai 56 ans quand même, mais jeune motarde parce que j'ai passé mon permis donc, en avril 2015. Et voilà, et donc j'ai décidé effectivement en mois d'août de partir et de réaliser 4500 km. Donc c'était une sacrée aventure pour moi.
Voilà, parce que dans la tête c'est différent, on a beau avoir des occasions de rouler et accumuler les kilomètres sur l'année. Le fait de partir pour une destination en se disant tiens, j'ai autant de kilomètres à faire.
Et oui, parce qu'en fait, moi, j'avais toujours... Enfin, le plus que j'ai roulé, c'est 500 km et j'avais jamais dépassé cette distance. Donc, c'est vrai que 4500 km, mais c'est sûr que c'est pas quelque chose de facile à faire.
Et
donc,
oui. On se pose la question, c'est l'endurance. Est-ce que je vais être assez endurante pour pouvoir assumer ?
Eh bien, voilà. Est-ce que je vais tenir le rythme ? Est-ce que je vais être assez endurante ? Est-ce que j'ai la capacité de rouler tous les jours pendant un mois ? Donc, c'est vrai que c'est vraiment un challenge d'affronter ces 4500 km. Mais bon, en fait, ce que je pense, c'est que c'est pas par hasard aussi. Je suis déjà quelqu'un d'endurante par aussi d'autres sports. Je fais de la course à pied, par exemple. J'ai fait des marathons. Je suis allée, par exemple, à Gandia en course à pied. Donc, Gandia, c'est donc dans le sud de l'Espagne. Donc, j'ai déjà eu des challenges comme ça. Mais là, bon, donc, en moto, c'est vrai que c'était... un autre challenge.
On a des appréhensions, ça c'est normal.
Ah oui, on a des appréhensions. Bon, déjà, moi j'ai vraiment décidé très tard de partir au guidon de ma moto, cette Triumph Bonneville 800. Et j'ai toujours été passagère, donc j'ai toujours voyagé passagère. Donc passer devant comme ça, eh bien voilà, j'ai vraiment pris ma décision très tard. Et puis je me suis dit, allez, cette occasion ne va pas se renouveler une deuxième fois, j'y vais, et puis il faut vivre le moment présent.
Et donc, cette expérience, j'irai sur un plan de roulage, qu'est-ce que ça a représenté, en fait ?
Qu'est-ce que ça représente ? Alors, y a la notion de liberté, hein, c'est sûr, hein, mais c'est aussi la notion de montrer que jeune conductrice, 56 ans, rouler en moto, c'est possible, quoi. Et alors, ça, je veux le partager vraiment avec toutes ces femmes qui ont envie, qui sont passagères et qui aimeraient tellement être au guidon. Franchement, c'est vrai que ça, c'est pas une simple affaire. Il faut déjà obtenir son permis, ça, c'est pas évident. J'ai eu le plateau au troisième fois, mais bon, je l'ai eu. Et après, c'est de dire, parce qu'il y a beaucoup de peur, effectivement, parce que je pense que quand on est femme, il y a aussi tous les aspects. Alors moi, je suis mère, je suis aussi grand-mère, et il y a aussi tous ces aspects-là dans la peur qui sont là, dans notre tête, et puis, faut dépasser tout ça.
Mais comme pour tout apprentissage, c'est la peur de l'inconnu. En fait, c'est des choses que tu n'avais pas expérimentées.
Effectivement, par exemple, les montagnes, hein, dans les Alpes, hein, sous la pluie, l'orage en Italie, il y a eu l'autoroute en Italie avec des automobilistes italiens un peu fous et des camions, mais vraiment un peu fous. Donc ça aussi, c'était quelque chose que j'avais jamais fait. Et puis, il y a aussi aller dans un autre pays avec des cultures différentes, avec aussi... là-bas, en Grèce, ça va être aussi la météo, les grosses fortes chaleurs. Donc, il y a vraiment plein d'éléments qu'il fallait prendre en compte. Donc, je savais que tout ça m'attendait quoi, dans mon voyage.
Quand on a préparé l'émission, tu disais qu'en fait, tu as eu l'impression au départ, hein, le temps que tu surmontes aussi ces appréhensions, parce que tu vas être dans des situations où tu vas te rendre compte que tu es capable et que ça se passe sans problème. Donc, tu vas gagner énormément confiance en toi. Tu as eu l'impression d'être dans une phase, je dirais, d'apprentissage quasiment comme dans un stage de roulage.
Complètement, en fait, j'ai noté hein, sur mon cahier que en fait c'était des vacances, mais pas vraiment, que c'était plutôt un stage moto que j'ai fait pendant un mois. Et c'est vrai que j'en reviens avec une sacrée expérience, quoi, avec vraiment des maintenant une façon de rouler différente, et vraiment je crois que ça m'a beaucoup aidé. Mais c'est vrai que j'avais vraiment l'impression d'être en stage moto.
Quand on est confronté à des difficultés comme celles que tu as pu rencontrer, On est dans des grands moments de solitude.
Eh oui, il y a des moments, mais des grands moments de solitude. Hein, quand j'arrive derrière une voiture qui freine sans me le dire et qu'il faut que là, à un moment donné, je maîtrise la moto et que la route est glissante, parce qu'en Grèce, c'est ça, des routes très glissantes. Eh bien, on est dans des grands moments de solitude. Quand je prends, quand je suis en montagne et que moi, j'avais jamais fait de montagne, donc c'est vrai que tous ces virages, ces descentes, ces petits chemins, donc c'est vrai que ça a été quelque chose de vraiment de fort, quoi.
Alors, sortir du bateau.
sortir du bateau, bien sûr. Sortir du bateau, ça a été ma première peur. Parce qu'en fait, bon, ben voilà, on nous a dit de monter la moto tout en haut dans le garage. Bon, ben, pour monter, ça a été, mais il a fallu la redescendre, cette rampe. Et là, eh bien là, j'ai eu très très chaud. Je croyais que j'allais jamais y arriver. Puis bon, voilà, j'ai décidé d'être courageuse. Et puis cette première descente, eh bien, elle s'est quand même bien passée. Et j'ai crié de joie en arrivant en bas, en fait.
Voilà, parce qu'en fait, ces peurs dépassées, c'est des moments de bonheur à trouver. Et tout ça, on va le partager avec toi après notre pause musicale.
Femmes aujourd'hui, aux femmes motardes.
Et en fait, pour resituer, en fait, c'était, je suis partie de Lille. On a pris le bateau à Ancône, en Italie. On a traversé 21 heures de bateau et ensuite on a fait en Grèce. On est arrivé à Patras et là, nous avons fait le tour du Pénopolaise.
belle destination que la Grèce. Et donc, un long périple, comme tu disais, 4500 kilomètres, des appréhensions que tu as dépassées. Donc, un challenge que tu t'étais comme ça, pour lequel, dans lequel tu t'étais engagé. À la dernière minute, tu dis, hein, parce que tu avais hésité jusqu'à la dernière minute.
J'ai énormément hésité, d'ailleurs, je t'avais même demandé qu'est-ce que tu ferais à ma place. Et là, tu m'as dit, allez, vas-y, c'est des choses vraiment importantes, trop importantes dans la vie de le faire, et que toi-même, tu l'aurais fait sans problème.
Et le challenge réussi, et donc, avec quel résultat?
Alors, les résultats, ce challenge, eh bien, ça a été une belle rencontre avec les autres. Et aussi avec moi-même, hein, avec moi-même par rapport à mes peurs, mes inquiétudes, mais aussi l'euphorie de ce voyage. Mais avec les autres, parce que en moto, en fait, on rencontre beaucoup de gens. Les gens regardent, en plus, ma moto, je l'appelle la belle, c'est pas pour rien. Et souvent, les gens la regardent, donc c'est déjà aussi un partage par rapport à ça. Aussi, en Grèce, je n'ai jamais vu une seule femme sur les motos. Donc là aussi, les gens sont impressionnés par ça aussi. Et la deuxième chose aussi, c'est que je ne suis pas partie toute seule dans ce voyage. On était deux, il y avait deux motos. Et là, donc, il y a eu cette panne de cette deuxième moto. La mienne, elle a tenu du coup tout le long du voyage. Et on est resté en panne, en particulier sur une place d'un petit village. Et moi, je suis restée pendant 2h30 près de cette moto à attendre... le compagnon qui était avec moi, qui était parti chercher une batterie, pendant 2h30, je suis restée sur cette place, et là, ça a été des belles rencontres, des gens qui sont venus vers moi, qui m'ont proposé, à un moment donné, il y a un monsieur qui m'a proposé une chaise pour que je puisse m'asseoir, des enfants qui sont venus me poser des tas de questions. Alors, évidemment, il faut parler un petit peu anglais, parce que là-bas... on rencontre des gens qui parlent français, mais de l'anglais quand même un peu. Et puis, on a eu ce motard Dimitri qui nous a dépanné. Et ça a été de très, très belles rencontres. Et ça, c'est super. Et c'est vraiment à travers... Je dirais que c'est à travers la moto, c'est vraiment quelque chose qu'on ne rencontre pas quand on conduit une voiture, quoi. C'est vraiment ce monde de la moto. En fait, c'est dans tous les pays, eh bien, il y a vraiment les gens sont vraiment solidaires, quoi. C'est ça qui est super, quoi.
Alors, les automobilistes, usagers de la route, motocyclistes italiens ont dû être impressionnés, parce qu'en fait, j'ai un petit peu anticipé tout ça. Je sais que cette BM, elle va pas avoir qu'une panne, malheureusement.
Alors oui, deuxième moto, cette BM la personne qui roulait sur cette BM, donc effectivement, elle a eu plusieurs pannes pendant. Pratiquement la moitié du voyage, la deuxième moitié du voyage. Et donc, à un moment donné, elle nous a lâchés, d'ailleurs, hein, en Italie. Alors, quand même, on a toujours rencontré des gens qui sont venus nous dépanner. C'est ça qui était vraiment super. Ils s'arrêtaient pour nous demander ce qu'il y avait. Ils nous ont emmenés dans des garages. Enfin, c'était vraiment super. Et en Italie, elle a dit, non, je ne veux plus aller plus loin. Et du coup, il a fallu qu'on rentre avec une seule moto. Ouais. Donc, la triomphe. Donc, j'avais un passager.
C'est ce que je voulais dire. C'est que finalement, ils ont vu une femme avec une moto très chargée, ça tu t'y attendais pas au départ,
du tout.
Et avec un sac de sable qui n'était pas féminin.
Femme. Pas féminin, donc c'est vrai que ça a un petit peu changé la donne, parce que ça aussi, c'était une expérience pour moi, parce que voyager avec un passager, c'est quelque chose que j'avais jamais fait. En plus, il a fallu quand même qu'on mette quelques bagages, parce qu'on a campé quand même pendant tout ce voyage. Et donc là, c'est vrai que pour moi, ça a été encore une autre expérience, c'était d'avoir un passager derrière moi, et que ce passager me fasse confiance. Et ça, c'était super aussi. Ouais. Parce que le retour, ça a été encore l'Italie, l'autoroute, les camions, les Alpes, Ça a été vraiment très fort aussi, ce moment-là.
Et qu'est-ce qui est devenu ce monsieur passager ?
Ce monsieur, il est retourné chercher sa BM en Italie.
Il est rentré sans une égratignure.
Sans égratignure, mais toujours en tombant en panne tout le long du...
Ah, il ne vit pas là-bas, il n'est pas resté vivre en Italie, quoi.
Non.
Il a pu faire confiance, comme quoi. Hein, il a fait confiance à la conductrice qui n'a pas... Justement, tu avais acquis une telle confiance en toi aussi que tu n'as pas voulu lâcher ton guidon.
Ah non, je voulais absolument au moins arriver. C'est-à-dire que de toute manière, les 100 derniers kilomètres, je voulais être au guidon de ma moto. Je voulais vraiment. Je suis partie de Lille et je voulais revenir avec ma moto à Lille. Donc ça, c'était vraiment très important. C'est vrai qu'on a alterné parce que sur la Triomphe, ça fait le passager, on a très très mal aux fesses. Chose qu'on n'a pas. J'ai jamais eu mal aux fesses quand je conduisais, mais par contre, en tant que passagère, c'est très inconfortable. Donc on a vraiment permuté, mais je tenais absolument à ramener et revenir avec ma moto sur l'île.
Donc une fabuleuse expérience. Tu vas continuer à nous en parler juste après la pause musicale.
Bonjour aux femmes aujourd'hui au phare de motard dans le magazine de la moto, des femmes qui prennent la parole et aussi des femmes qui agissent et des femmes que l'on voit de plus en plus au guidon des motos sur la route et qui partent en voyage.
Oui, comme à l'instar de Christine. Hein, Christine qui est donc partie pour ce voyage en Grèce qui a été une belle réussite.
Ah, une superbe réussite.
Si tu devais résumer ce que tu as découvert avec ce voyage.
Eh bien, au-delà du dépassement de moi-même tout le long du voyage, hein, ça a été vraiment, à chaque fois que je suis montée sur la moto, ça a été vraiment le tiraillement entre la peur et la liberté, en fait. Et c'est vrai que si vraiment il y avait quelque chose... Voilà, c'est cette notion de liberté qui a été vraiment, je pourrais résumer, cette notion de liberté qui est un grand mot, hein, qui fait rêver beaucoup de gens, hein, ça c'est sûr. Mais pour moi, c'est vraiment... cette notion, elle est présente tout le long du voyage, parce que c'est vrai que cette décision de rouler à moto sur 4500 kilomètres, tiens, c'est rigolo, ça. Ouais, ça. Eh bien, c'est vraiment, c'est rien que de prendre la décision, c'est une notion de liberté, en fait. Parce que, effectivement, on pourrait se dire, mais non, faut pas que je parte parce que j'ai mes enfants, j'ai mes petits-enfants, j'ai ma vie, j'ai peur de faire du mal. Mais non, non. À un moment donné, on dépasse ça. Et on se dit, mais eh bien si, je vais y aller. Et puis, cette liberté que la vie m'offre à cet instant, eh bien je vais le prendre. Je vais le prendre. Et puis, je vous dis, elle m'a suivie, mais tout le long du voyage. Il y a eu des moments plus forts. Par exemple, quand je descends une montagne, là, avec des virages assez sinueux, en fait. Hein, et un magnifique ciel, des paysages vraiment superbes. J'avais personne devant moi, personne derrière moi. Et là, vraiment, j'étais comme en osmose avec ma moto. Et ça aussi, tout le long du voyage, cette moto, et moi, on a vraiment partagé ensemble. C'était comme une plus qu'une copine, c'était une amie avec qui je faisais confiance et voilà, et la route s'offrait devant moi et je roulais et c'est vraiment là, ces moments-là, ça a été des moments superbes. Vraiment, j'ai encore en moi l'émotion que j'avais quand je descendais cette montagne, vraiment cette notion de liberté, quoi, liberté de légèreté, quoi.
Mais tu vas faire un beau cadeau aux auditeurs de Kikinko parce que ils vont pouvoir profiter de ces paysages merveilleux parce que vraiment ce que vous avez fait, le tour du Péloponnèse.
Le tour du Péloponnèse, donc voilà, c'est quand même pas facile à faire parce que c'est quand même une région qui est très montagneuse. Les routes sont pas forcément en très bon état. Il y a des morceaux de route qui sont en bon état, mais il y a des morceaux de route qui sont pas très bon état. On a pris des petites routes avec des trous, des chèvres qui se promenaient là par-ci par-là. Donc c'est vrai que c'est pas facile comme région, mais vraiment j'invite les personnes à vraiment, parce que les paysages là, quand on arrive sur Kalamata, quand on arrive dans le Magne, on est vraiment dans le sud du Péloponnèse et là c'est vraiment magnifique par le paysage et vraiment des moments superbes, quoi. Kalamata, où là aussi, j'ai vécu une sacrée frayeur, puisqu'il s'est mis à pleuvoir vraiment des trompes d'eau. Et là-bas, les routes sont assez glissantes. Et des égouts, j'avais l'impression qu'il y avait des bulles, que l'eau, elle était savonneuse. On a dû s'arrêter, mais très, très vite, avant la chute. Et ça a été aussi un moment fort, ça. Prendre des décisions, s'arrêter. Vraiment, c'est vraiment été vraiment des décisions très importantes. Cette liberté de rouler dans ces paysages, quoi. C'est vraiment superbe, quoi.
Rouler aussi à ton rythme,
alors,
c'était
voilà,
important.
Ça, c'était aussi, avec la personne qui m'accompagnait, c'était vraiment quelque chose sur lequel j'ai insisté, parce que je suis jeune conductrice, et je voulais qu'on respecte ce rythme, et ça... Cette personne a vraiment respecté ça, donc je me suis sentie vraiment en sécurité par rapport à ça. Sur l'autoroute, j'étais devant. Quand je doublais, la personne s'écartait avant moi de façon à vraiment me protéger, parce que là-bas, franchement, il y a souvent malheureusement des accidents mortels, parce que ils roulent comme des fous, les Italiens. Ils se rabattent comme des fous, les camions pareil. Et donc c'est vrai que ça a été vraiment sympa par rapport à ça. Ça a bien fonctionné et qu'on me respecte mon rythme, ça a été quelque chose de fabuleux, quoi. C'était aussi une façon de dire, voilà, moi je suis aussi dans cette liberté de pouvoir rouler au rythme que je veux, et on a respecté, en fait.
Donc pour pouvoir continuer à te découvrir au travers de cette expérience que tu as eue avec ce beau voyage en Grèce. Les auditeurs de Kikinko donc peuvent se rendre sur le forum KNC.
J'ai fait un petit diaporama sur, parce qu'en fait mon compagnon m'a beaucoup pris en photo, et donc j'ai fait un petit diaporama, et là c'est vrai que vous pourrez un petit peu plus découvrir ce que j'ai traversé.
Et le texte, parce que c'est un beau texte, tu vas le joindre ou pas?
Oui, je peux le joindre aussi, j'ai écrit aussi. Alors pour la petite histoire, j'ai quand même écrit tous les jours sur un cahier, j'ai écrit à peu près une centaine de pages pour raconter toutes les anecdotes qui ont pu nous arriver, et puis toutes mes émotions aussi. C'était important pour moi tous les soirs de mettre sur ce cahier toutes ces émotions que j'ai ressenties tout le long du voyage.
Mais sachez que vous avez toute liberté pour réagir dans les rubriques qui vous sont proposées sur le forum K1C, et donc faites plaisir à Christine.
Ah oui, avec plaisir, je lirai vos commentaires.
Et on espère rencontrer ton compagnon dans une prochaine émission.
Ah, mais bien sûr.
En Australie, voilà, c'est la séquence voyage.
Oui, je suis très impatiente d'avoir Fanette. Fanette, es-tu là?
Et...
Ah, super. Donc, Fanette, 9 mois date à date depuis ta précédente intervention à la radio, ici sur Radio Campus Lille. On te retrouve. Hein, donc, le 24 février, tu étais en Nouvelle-Zélande. Et oui. On t'avait suivi admiratif hein, de tout ce que tu pouvais nous dire et aussi à te lire, hein, parce qu'il faudra que tu nous donnes les liens sur lesquels on peut trouver tes textes où tu te racontes, je dirais, dans ton périple là. Et alors, quelles nouvelles depuis le 24 février ?
Ouh là là, plein de choses. Alors, on s'est parlé donc il y a 9 mois de ça et maintenant je suis en Australie. En effet, il s'est passé plein de choses. C'était épique, très épique. Donc pour ceux qui m'ont suivi, vous avez pu donc vous rendre compte que je m'éclatais. Voilà. Pas très longtemps après qu'on se soit parlé, j'ai fait une petite chute et je me suis donc brisé la clavicule en 3 morceaux. Voilà, c'était une aventure parmi d'autres. Ça fait partie du voyage et puis j'ai décidé de, malgré les protestations de la famille et les avis, c'est la seule personne qui m'a motivé à rester en fait.
Après le choc, donc tu as pu reprendre après la route.
Voilà, donc j'ai dû attendre, j'ai dû être patiente. Hein, c'est un apprentissage comme un autre. Ça n'a pas été très simple, mais j'ai essayé. Donc j'ai attendu 2 mois, j'ai fait 2 mois, j'ai été en opération, donc je me suis fait opérer, on m'a posé une plaque, on m'a posé des vis. J'ai dû attendre 6 semaines, ensuite j'ai dû faire une rééducation pendant 1 mois avant de pouvoir aller chercher ma moto sur l'île du Sud, puisqu'entre deux je suis partie sur l'île du Nord, il fallait que je travaille. Donc voilà, j'ai passé 2 mois en convalescence, ensuite j'ai passé 4 mois à travailler sur l'île du Nord comme serveuse. Parce que je ne vis pas d'amour et d'eau fraîche, malheureusement. Et ensuite, j'ai pu récupérer Bundleby et finir enfin mon voyage sur l'île du Nord. Voilà pour donc les 9 mois qui se sont écoulés depuis notre dernière entrevue.
Et donc, après, tu as fait des choix.
Voilà, alors, quand on s'est parlé la dernière fois, je vous avais déjà fait comprendre que j'avais des projets pour la suite. Puisque le jour où on s'était parlé, je venais d'envoyer ma demande de visa pour l'Australie, demande qui a été donc reçue et confirmée. Donc j'ai à nouveau un visa d'un an, vacances-travail, pour l'Australie, et je suis arrivée il y a 3 semaines à Melbourne. Donc c'est dans l'état de Victoria, dans le sud-est de l'Australie.
C'est bien l'Australie ?
Oui.
Donc,
le petit oui.
Si on reste à parler moto, donc Tu as laissé Bumblebee en de bonnes mains.
Alors j'ai vendu Bumblebee en versant un peu quand même une petite larme. J'ai vendu Bumblebee
à force de partage, elle avait une âme, hein, ta moto. Ouais.
C'est ta moto que tu appelais comme ça.
Oui, Red Bumblebee. Ouais. J'ai écrit donc sur mon blog, j'ai écrit un petit texte dans lequel je dis que c'est plus qu'un assemblage de roues, d'un moteur et puis de plein de boulons et d'écrous. C'est aussi le symbole de mon voyage, c'est le symbole de mes rêves que j'ai essayé de concrétiser pendant une année. C'est le symbole de mon acharnement malgré les obstacles et malgré les petits accidents, à ne pas laisser tomber et puis à continuer. Voilà. Donc c'était pas juste une machine, c'était pas juste une moto, c'était ma partenaire de route. Elle représente tout ce que j'avais même pas pu imaginer ou penser avant de partir. Voilà.
Donc là, tu as opté pour une autre compagne.
Oui, qui est un mâle.
Oui. Vu le surnom.
ça va vous faire rire. Donc ma moto s'appelle Momo le chameau.
D'accord.
Mais voilà.
Mais on te lit. Alors nous on suit. D'accord. Oui, d'accord. Elle parlait de Momo le chameau. Mais en plus, c'est précisément une Suzuki, là.
Voilà. Donc en fait, j'ai décidé de changer vraiment de marque et puis de modèle. La BMW 6. Donc pour rappel, je roulais sur une BMW 650 GS de 2006. en Nouvelle-Zélande. C'est une moto qui est quand même assez lourde et assez volumineuse. C'est censé être une moto pratique pour faire du off-road et de la route, donc dual purpose. Mais dans le fond, j'avais pas des pneus off-road, j'avais des pneus route, donc c'était pas si évident que ça. Je perdais beaucoup d'adhérence à l'avant, donc j'avais tendance à me ramasser quand même pas mal de fois, des fois juste en manœuvrant ou sans raison particulière. Donc c'était pas très maniable pour moi, en faisant 1m63 et 60 kg, c'était pas le plus simple. Donc j'ai opté pour la Suzuki BR650, qui est vraiment une moto dual purpose. C'est parfait, c'est un mix entre une motocross et une moto de route.
Donc là,
c'est très léger. Ouais.
Oui, là tu es reparti sur la route.
Oui, alors par contre c'est très récent parce que donc je suis arrivée il y a 3 semaines à Melbourne. J'ai une éternité. Hein. J'étais bloquée en ville puisqu'il fallait que je fasse toutes les démarches qu'on fait quand on arrive dans un nouveau pays. Hein. Il faut ouvrir un compte en banque, il faut faire une demande de numéro fiscal pour pouvoir ensuite travailler. Il faut faire toutes ces petites démarches là pour s'installer. Et puis ensuite j'ai acheté la moto une semaine plus tard. Et elle n'a pas passé le contrôle technique tout de suite, que j'ai mis plus d'une semaine à recevoir la pièce manquante pour obtenir le contrôle technique ensuite de la moto. Et sans le contrôle technique, je ne pouvais pas faire l'immatriculation de la moto. Donc ça a pris une dizaine de jours jusqu'au moment où j'ai enfin eu ma plaque d'immatriculation et le droit de rouler légalement sur la route. Donc en fait, j'ai pris la route vendredi matin. Donc c'est ma deuxième journée. Aujourd'hui, c'est ma deuxième journée de ride.
Mais tu penses, en Australie, tu penses faire quoi ? Le tour de l'Australie ?
Alors, je vais déjà essayer de ne pas mourir.
D'accord, oui. Ça, c'est déjà une bonne option.
Oui. Alors, en fait, faut savoir que quand j'ai décidé d'aller en Australie, j'avais pas trop en tête de faire ce que j'ai fait en Nouvelle-Zélande. Déjà, plus je parlais aux gens de mon projet d'aller en Australie, moi, j'avais envie d'y aller. Donc, y a beaucoup de choses qui peuvent te tuer en Australie si t'as pas de bon sens ou si tu fais pas attention. Alors, c'est vrai que j'avais fait une croix sur le camping parce que il y a des serpents, il y a des araignées.
Ah oui, ah oui.
Il y a des fourmis géantes aussi.
Non.
Il y a des crocodiles, il y a des requins. Alors, à côté de la Nouvelle-Zélande, c'est vrai que c'est wild, hein, c'est super sauvage. La Nouvelle-Zélande, il n'y a pas beaucoup d'animaux sauvages. Hein. Les possums et les wekas, c'est les oiseaux et donc les possums, c'est à peu près tout ce que j'ai pu rencontrer de vie sauvage. Donc les Néo-Zélandais, les Kiwis sont vachement flippés de l'Australie et de vie sauvage. Du coup, encore là, en fait, là en ce moment, donc je vais vous dire où je suis à la campagne, hébergée par par les boss d'une amie à moi, donc qui tiennent un centre équestre. Et donc là, juste avant que vous m'appeliez, donc on était en train de dîner, puisque chez moi il est 22h20, et en fait ils m'ont fait télécharger des applications pour savoir où étaient les bushfires, donc les feux de forêt, les plus proches pour les éviter. Ils m'ont fait télécharger une application pour savoir tous les accidents et les urgences qu'il y a dans une région. En cas de pépin. Enfin voilà, il faut être bien équipé ici, il faut être bien préparé. Je vais pas faire mon voyage un petit peu de façon improvisée.
Et tout ça, on rappelle en moto, hein.
C'est ça. Donc en fait, tu peux pas rouler la nuit ici en Australie à cause des kangourous et de la vie sauvage.
Les kangourous,
donc,
oui,
les kangourous, c'est hyper dangereux. Oui.
On peut se payer un kangourou,
voilà. Donc ici, les kangourous, c'est comme les hérissons chez nous. Hein, donc,
ah oui, mais c'est plus gros.
C'est un peu plus gros. Donc si tu prends, ouais, c'est ça.
Bon, écoute, Fanette, Patricia.
Oui, si vous voulez suivre Fanette, on va relayer donc les liens nécessaires. Et puis, il y a aussi un message, un podcast à écouter hein, sur messages vocaux, VOCO, c'est Colline Héberard, Fanette.
Mm-hmm. Oui, c'est bien ça.
Et c'est bien sympa.
Oui, elle a fait un petit podcast sur les bruits à moto et c'est très original.
C'est ça, avec, et on peut t'écouter.
Beaucoup d'humour, oui.
Eh bien, écoute, nous... Oui.
Et donc, du coup, juste pour suivre les prochaines aventures, puisque je commence seulement maintenant, donc pour savoir si je suis toujours en vie dans quelques semaines, et ce qui se passe sur la route, parce que ça risque d'être très épique. J'ai donc une page Facebook et un compte Instagram à Fanette Cyclette.
Fanette Cyclette.
On relaye tout ça, ouais. Fanette, voilà. Avec le podcast
Patricia
de l'émission.
Patricia va nous mettre ça. Voilà. Bon, bah écoute, Fanette, bonne chance. Hein, écoute, puis fais attention, fais gaffe. Hein,
oui.
Hein, et fais attention à ta moto aussi.
Et on t'embrasse tous
oui,
très fort.
Un moment.
Voilà.
Bah, merci pour
bon appétit. Je sais pas si t'as terminé de le souper là, le dîner. Voilà.
Et si je peux me permettre, je voudrais juste faire une petite dédicace à toutes les personnes qui m'accompagnent depuis plus d'un an, qui m'accompagnent en pensée et sur les réseaux sociaux, aux collègues, aux amis, aux inconnus, aux gens qui m'ont rencontré cet été, l'été en 2018 à vélo, à toutes les personnes qui me suivent et qui me soutiennent. Merci beaucoup. Et voilà, sans toutes ces personnes-là, voilà, le fuel dans la moto, ça suffirait pas pour avancer.
D'accord, très bien, Fanette. Ouais. Et puis à bientôt, là, on espère te retrouver sur les ondes de Radio Campus Lille. Bientôt.
Oui, je te rappelle.
Au revoir. Au revoir.
Radio Campus.
Ce qui me surprend, c'est la dextérité de ces hommes.
106,6.
vraiment là, il n'y a rien de semblable dans toute l'histoire des techniques de ce siècle.
Merci Patricia hein, pour.
Ben écoute, un grand grand merci à toute l'équipe, à tous les auditeurs qui permettent que des émissions comme celle-là se fassent.
Merci Laurent.
Mais merci à vous
et à dimanche prochain.
Et bonne semaine.